je vais parler d'une, non pas d'une recherche, de la recherche que j'ai faite au moment où je faisais partie du groupe de mémoire historique, mais plutôt d'une réflexion que j'ai faite a posteriori, quand le processus de paix était déjà dans sa dernière étape, et je me demandais quelle était la représentation des femmes dans les négociations de paix. Comment est-ce qu'on représente les femmes dans une négociation de paix? Que faut-il faire depuis l'académie, depuis la recherche, mais aussi depuis les mouvements sociaux, les mouvements de femmes? Que faut-il faire pour vraiment représenter les femmes dans les négociations de paix? Et c'est dont je vais parler cet après-midi. Mon plan de présentation est le suivant. Premièrement, je vais parler un peu de la Colombie. Je me suis dit quand même, il faut présenter la Colombie. Il faut présenter aussi qui je suis, d'où je viens, d'où je parle. Alors, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le cadre conceptuel. Qu'est-ce qu'on appelle en général représentation? Comment est-ce qu'on le voit de la science politique ou de l'anthropologie ou de la littérature? Qu'est-ce qu'on dit quand on dit représenter, à quoi pense-t-on? Et puis, le troisième point, c'est vous présenter comment s'est fait le processus de représentation des femmes durant les négociations de paix. Et là, j'ai trois arguments. Le premier, dans les négociations de paix, généralement, on parle, ou plutôt les équipes négociateurs parlent du conflit et des enjeux du conflit. Mais il faut aussi parler de ce qui arrive avant le conflit. Il faut parler aussi des mémoires des femmes avant que les acteurs armés arrivent dans leur région. Il faut tenir compte de la vie quotidienne et des violences qui ne sont pas, disons, directement involucré avec le conflit armé. Donc la mémoire compte, la mémoire dans la représentation compte. Deuxième argument, que se passe-t-il durant le conflit? Est-ce simplement la magnification, comme on le dit souvent, des violences quotidiennes contre les femmes? Est-ce simplement un continuum, comme on l'appelle dans la recherche et dans les organisations internationales, où il y a-t-il une différence des violences produites durant les conflits? Alors, deuxième argument, réellement, le continuum n'est pas suffisant pour comprendre ce qui arrive aux femmes durant les conflits armés. Et troisième argument, qu'arrive-t-il avec les femmes durant les négociations? Et là, on va voir avec le cas colombien comment les mouvements sociaux de femmes, les agences internationales ont poussé les acteurs de la table de négociation à ouvrir une subcommission de genre qui n'avait pas été prévue pour vraiment avoir les voix des femmes dans la négociation. Et on va voir ce qui s'est passé parce que le résultat est très paradoxal. Les femmes ont vraiment su représenter les intérêts des femmes et des victimes lors de la négociation, mais en Colombie, quand le processus et le président Santos a voulu chercher la légitimation de l'accord à travers le plébiscite, on a perdu. On a perdu à cause de la mobilisation qu'a fait la droite autour des intérêts conservateurs contre les accords, en appelant aux femmes, aux intérêts naturels des femmes, etc., etc. Donc, ça, c'est ma présentation. Simplement pour que vous ayez la carte de la Colombie, quand même, dans la tête. En général, on parle du conflit en Colombie et on l'associe directement au narcotrafic, à la drogue. Si, en général, les médias présentent la Colombie comme un conflit où la coca explique le conflit armé. Mais vraiment, ce n'est pas si simple. Premièrement, parce que le conflit colombien a aussi une dimension politique. Et là, je voudrais en parler de cette dimension politique en faisant appel à mon, ma trajectoire comme académicienne, chercheur. Et je vais vous raconter ce qui s'est passé aux universités en Colombie durant un très long temps à cause de la guerre. Disons que vers les fins 80 du siècle 20, du siglo 20, je ne sais pas comment on dit ça, du 20e siècle, nous avons eu des assassinats de chercheurs, des universitaires menacés, des exilés qui ont dû des chercheurs qui ont dû sortir du pays à cause des menaces qu'ils recevaient en Colombie. Mais ce n'était pas que les universitaires, il y avait aussi les journalistes. Ce que je veux montrer, c'est que vraiment les intellectuels qui produisent des messages étaient ciblés. Ce n'était pas des accidents de la guerre. Ils étaient vraiment ciblés. J'ai eu des collègues un peu plus âgés que moi qui sont morts dans les campus de la Colombie. Hein. Ce n'était pas une guerre limpia, propre, mais c'était une guerre où vraiment on voyait qu'il y avait un argument idéologique aussi. La force de la guerre sur les universités ont conduit la négociation et aussi la réparation des victimes à avoir 3 universités comme sujets collectifs de réparation. Hein. C'est des sujets collectifs de réparation parce que c'est l'université dans sa totalité comme centre de pansement qui a été ciblé par les acteurs armés. Alors, premier point, la guerre en Colombie, c'est pas que la coca. Hein. C'est pas que la coca. Il y a vraiment des enjeux politiques et idéologiques. Que s'est-il passé avec les universités et les chercheurs pendant un long temps ? On a dû se replier. On ne pouvait pas faire de la recherche de terrain. On ne pouvait pas aller dans les régions. On essayait de faire un contrepoids à la guerre, mais on ne pouvait pas, faire ce qu'on venait de faire pendant les années 80, c'est-à-dire être au terrain. Mais vers 2006-2007, paradoxalement, parce qu'on était sous le gouvernement Uribe, l'université a commencé à retourner à faire du travail de terrain. Et c'est là que s'inscrit ce que nous avons fait en mémoire historique en Colombie. On est retourné faire du terrain. Moi, je faisais partie de l'université de Los Andes, mais j'ai fait partie du groupe de mémoire historique. Et c'est là où on a commencé à faire de la recherche dans les Caraïbes, dans cette région-là, avec toute une équipe de femmes, de jeunes femmes et de chercheurs. Et donc, nous avons eu la possibilité de faire de l'ethnographie, de faire vraiment de la recherche participative avec les victimes, de retourner dans ce qu'on appelle en général la Colombie profonde. Qu'est-ce que j'ai commencé à voir quand j'ai fait ce travail de champ ? Non, de terrain, pardon. Et qu'est-ce que j'ai appris à penser sur, de nouveau, l'argument de la représentation des femmes dans les négociations de paix ? Je vais présenter le cadre conceptuel et je vais dire que l'argument central, c'est que, vous savez que... Les Nations Unies ont passé une résolution, la 1325, qui exige aux négociateurs d'incorporer les femmes dans les équipes négociateurs. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas suffisant. Hein. Les décideurs peuvent... Oui ? Non, on ne le dit pas dans la 1325, on ne le dit pas. Mais en tout cas, ce que je veux argumenté, c'est que la présence de femmes dans les équipes négociateurs n'est pas suffisante. Avoir un corps de femmes ne garantit pas d'avoir les enjeux des différences sexuelles et des différences de genre dans la tête. On peut être une femme et penser que tout le monde a les mêmes droits et que le monde est très, très égalitaire avec hommes et femmes. Alors, il faut distinguer entre présence physique dans les équipes négociateurs et vraiment avoir une masse critique de femmes capable de faire que les négociations tiennent en compte les différences et les inégalités de genre qui traversent une société. En plus, représenter les femmes n'est pas facile parce que les femmes, ce n'est pas une communauté homogène. Ce n'est pas un secteur homogène, c'est traversé par différences de perspectives religieuses, sociales, raciales, options sexuelles. Donc, c'est un univers très divers. Et mon argument, c'est que l'on construit les intérêts des femmes à représenter à travers des processus de communication où les femmes de différentes trajectoires, de différents secteurs sociaux se rencontrent pour construire les enjeux qu'elles veulent défendre dans l'espace public. Ces dynamiques sont contentieuses, toujours, parce qu'en même temps que l'on crée une communauté d'enjeux, on crée, si l'on veut, la communauté contraire. Je ne sais pas si ça se comprend. D'accord. Bon, alors maintenant, on va voir comment s'est fait la représentation en Colombie et mes arguments centraux. Premier point, la représentation non seulement doit tenir en compte les enjeux du conflit armé, mais doit aussi tenir en compte la mémoire que les femmes construisent de leur vie passée, dans leur vie quotidienne. Deuxième argument, je l'ai dit, ce n'est pas suffisant de tenir en compte les violences quotidiennes qui irriguent une société. Il faut aussi savoir ce qui s'est passé lors du conflit armé. Et troisième point, on va voir aussi ce qui s'est passé pendant les négociations à La Havane. Alors, avant le conflit. Alors là, je veux faire une remarque méthodologique. Dans tous les travaux que nous avons fait des travaux participatifs, c'est-à-dire nous avons travaillé avec les victimes, non seulement en représentation des victimes, mais avec les victimes. Et nous avons fait des ateliers avec les femmes victimes. Et ce qui m'a surpris, c'est que la vie quotidienne avant le conflit armé, en général, ne sortait pas durant les ateliers. Plutôt, ce qui sortait dans ces ateliers, c'était une image un peu mythique d'un passé communautaire parfait où rien ne se passait. Enfin, tout était parfait. Quand on commençait à parler de la vie quotidienne des femmes hors les moments officiels de l'atelier, quand on posait des questions qui n'étaient pas, disons, les questions de la recherche, quand on était en train de parler d'une façon moins structurée, alors là apparaissaient les histoires de violence que les femmes n'avaient pas racontées lors des moments structurés de l'atelier. Et la violence que j'ai écoutée, si vous me demandez d'une manière plus personnelle, la violence que j'ai écoutée, que les femmes souffraient avant les acteurs en armes, m'a choquée. M'a choquée parce que moi, je faisais de la recherche en Colombie sur les mouvements des femmes en Colombie et je n'avais vraiment pas conscience de l'ampleur de la violence contre les femmes qu'il y avait dans mon pays. Deux histoires, deux citations qui m'ont vraiment frappée. Première citation, c'est à Trujillo Valle. Nous avons fait des ateliers avec les paysans. C'est une communauté paysanne. Et voici ce qu'une femme déjà adulte m'a raconté au moment où je lui ai demandé comment était la relation femme-homme, jeune fille, jeune garçon dans sa région. Et elle me dit, je me souviens de mon enfance comme très violente. Depuis que je me souviens bien, j'ai été paysanne, travaillant toujours sur le terrain. Je me souviens de mon père. C'était un dictateur chez lui. J'ai été son ouvrier jusqu'à l'âge de 13 ans. J'ai labouré la terre avec lui, planté du maïs et des haricots. À l'âge de 15 ans, il m'a contraint à me marier. Avant de me marier, aucun ami ne pouvait s'approcher de moi. Mon père m'a mariée à l'homme qu'il a choisi. Il avait 60 ans et je venais d'avoir 16 ans. C'est comme ça que ma vie a commencé et que ce qui a mal commencé ne pouvait que finir mal. Hein? Alors là, on voit ce que on a appelé dans la recherche les...
Ouais.
Les accommodements de genre. Dans le quotidien, les accommodements de genre dans certaines régions de la Colombie étaient enracinés dans une structure tout à fait patriarcale. Transactions. Oui. Bon, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que dans la vie quotidienne, il y avait certaines relations qui ne passaient pas par les médias, qui ne passaient pas par la recherche académique, qui ne passaient pas, si vous voulez, par la conscience des intellectuels en Colombie. On n'avait pas conscience de la violence qui circulait contre les femmes dans la vie quotidienne. Et c'est en sortant et en faisant du terrain que je me suis aperçue de cette souffrance et de cette tragédie. Je voulais dire aussi que ça m'a frappée parce que, en général, quand on fait des généralisations sur un pays, on pense qu'il n'y a pas de variation régionale. Ce que j'ai découvert à travers ce processus participatif, c'est qu'il faut faire non seulement des généralisations d'un pays, mais aussi avoir en compte les variations régionales dans ces arrangements de genre pour pouvoir vraiment capturer l'expérience des femmes. Voilà. Deuxième citation. Maintenant, nous sommes aux Caraïbes, nord du pays. Une jeune femme, cette fois-ci, c'est une jeune femme. Avec mon mari, j'ai eu une vie horrible. Au début, il m'a plus ou moins bien traitée. Mais 6 mois plus tard, il a commencé à me maltraiter. Il m'a frappée. Une nuit, les enfants demandaient à manger et j'étais désespérée. Enfin, il est arrivé complètement ivre. Quand je me suis plainte, qu'a-t-il fait ? Il a trouvé un câble électrique et m'a fouettée. Ma mère a dit que je devais le supporter, que je devais être là avec lui, car il était le père de mes enfants. Nous devions obéir aux mères et ma mère m'avait dit de le rejoindre. C'est la vie. Alors là, ce que je voulais montrer, c'est que le système de violence patriarcale a besoin de facilitateurs. Et les facilitateurs sont aussi des femmes. Ce n'est pas un système qui met les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. C'est un système qui a des alliances et qui attrape, si vous voulez, femmes et hommes dans ces arrangements violents et patriarcales. Une question sur les sciences politiques. Je viens de la science politique. Alors, ce qui m'a frappée avec ces histoires, c'est que, en général, quand on évalue un pays et un régime démocratique, nous avons des indicateurs. Nous regardons s'il y a un système de partis pluraliste, s'il y a un état de droit, si on a des juges un peu indépendants, etc., etc. Mais la science politique comme science, comme terrain de réflexion, n'incorpore pas dans ses concepts centraux des indicateurs qui puissent nous dire comment est la vie quotidienne dans des régimes démocratiques des femmes. C'est-à-dire, les indicateurs que nous utilisons sont très traditionnels, continuent à être complètement fixés sur le public, le terrain du public, sans faire attention à ce qui arrive dans la vie quotidienne de citoyennes de ces pays que nous disons démocratiques. Voilà, avec ça. Mais ma remarque sur la science politique. Deuxième argument, alors, nous avons un pays où, par région et par différence sociale, une vie quotidienne très violente contre les femmes. La question est alors, que s'est-il passé avec cette violence durant le conflit armé ? Avons-nous eu tous les acteurs avec les mêmes répertoires de violence ou voyons-nous des variations entre ces organisations ? Et là, je m'excuse, c'est en anglais. Je n'ai pas eu le temps de traduire. Alors, ce que nous avons rencontré avec la recherche que nous avons faite, et avec aussi, il y a un gigantesque archive en Colombie qui s'appelle El Registro Único de Víctimas, avec beaucoup d'histoires de beaucoup de victimes au long de beaucoup d'années. Et ce que nous avons rencontré avec ces histoires et le travail de terrain que nous avons fait, c'est qu'il y a une énorme différence, non quantitative. Les paramilitaires et les guérillas ont beaucoup de violence contre les femmes, mais beaucoup de variations des répertoires de violence que les organisations utilisent. Et quand je dis répertoire, je me réfère à comment ils exercent la violence. Non seulement s'ils sont violents ou pas, mais comment ils exercent la violence. Alors, par exemple, les paramilitaires. En général, j'utilise surtout les données sur la violence sexuelle et rape, viol. Et nous avons trouvé que les paramilitaires, par exemple, violent groupalement, publiquement, et en général, le font au milieu de disputes territoriales où il y a aussi d'autres répertoires comme les massacres qui font un tout. Les guérillas, au contraire, violent, oui, elles violent, mais généralement, c'est des viols individuels, très ciblés, non ? Le guerrillero flirte avec une femme, la femme dit non, la cible et la menace et l'oblige à avoir des relations sexuelles. En général, ce n'est pas public. Et en général, c'est individuel. Quand c'est public, pour les guérillas, quand c'est public, c'est contre des femmes qui font face à l'ordre guerrillero, qui, par exemple, s'opposent au recrutement des jeunes dans leur région. C'est une façon de s'opposer à l'ordre et à la domination des guérillas. Et donc, c'est aussi des viols ciblés. Hein. Et pour les forces d'État, alors, il y a un problème parce qu'en général, les femmes n'accusent pas tellement les forces d'État. On ne sait pas si c'est parce qu'elles ont peur. Hein. Ces deux acteurs sont en train de se démobiliser quand nous faisons le travail de terrain. Donc, il y avait quand même dans l'horizon la possibilité qu'ils ne soient plus là après un certain temps, mais les forces de l'État, bien sûr, continuent. Mais en tout cas, ce que racontent les femmes, c'est qu'il y a moins de violences publiques, mais il y a quelque chose qui m'a alertée sur la façon dont les forces armées codifient la violence sexuelle contre les femmes. Et c'est qu'en général, bon, et ça dit beaucoup, beaucoup aussi de mon pays, les jeunes filles, dans certaines régions, n'ont pas beaucoup d'opportunités, ni d'éducation, ni de sortir un peu de leur statut d'exclus. Et ces filles regardent parfois ces hommes armés comme une façon de sortir de leur enfermement. Et ce que font les forces armées, c'est de... Par exemple, quand il y a une jeune fille qui est tombe enceinte, au lieu de l'institution, au lieu de répondre pour cette fille qui est enceinte, personne n'en parle. Hop, l'homme, le jeune homme est trasladado quelque part ailleurs. Non, et ce qu'on voit, non, mais c'est pas à rire, hein, parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui ont été, qui sont enceintes, et finalement, le grand message derrière, c'est que les femmes doivent être responsables des jeunes et les hommes peuvent s'en sortir facilement. Hein. Donc, il y a, si l'on veut, avec les forces armées, vitiated consent, un consentement vicié qui n'est jamais discuté ouvertement dans le domaine public. Ouais. Donc, bueno, y a ça, je l'ai dit déjà, la variation entre les répertoires des acteurs armés vis-à-vis des femmes nous montre qu'il y a une responsabilité des organisations armées. C'est-à-dire, ce n'est pas la même chose, la violence quotidienne, que la violence qu'on a durant le conflit armé. Et les organisations, à travers leur langage corporel, leur adoctrinamiento físico, adoctrinement physique, inculquent des répertoires différents et donc doivent rendre compte, on dit comme ça, rendre compte des décisions qu'ils ont prises vis-à-vis leur organisation. Ouais. Troisième point. Alors, nous avons un pays très violent contre les femmes qui n'en parle pas dans la vie quotidienne. Deux, nous avons des organisations armées qui ont des énormes difficultés pour accepter qu'ils ont violé des femmes, qui ont maltraité des femmes. Hein. Si vous voyez, oh, non, non, jamais. Hein. Et troisième point, que s'est-il passé alors avec tout ça durant les négociations de paix ? Alors, première photo, les négociateurs, tous des hommes. Hein. Je n'ai pas eu suffisamment le temps, mais il y avait des photos encore pires où on avait tous les plénipotentiarios, c'est-à-dire les gens qui pouvaient prendre des décisions durant les négociations. C'était tous des hommes. Et derrière, les jeunes filles qui travaillaient des heures et des heures, non, sur... L'on voit ici une, mais il y en avait plusieurs. Et ici, nous avons la photo de la subcommission de genre que finalement a été mise en place lorsque Nations Unies, les femmes en Colombie, les mouvements de femmes qui sont très forts, et même les femmes qui étaient à la table de négociation ont dit « Ouh, on existe ». Nous voulons la parole, nous voulons faire partie des négociations. La subcommission a très bien fait son travail. Si vous voyez les accords avant la subcommission et après la subcommission, il y a des changements qui sont très importants. Par exemple, point 1, ruraux, non, le, les femmes ont été vraiment tenues en compte pour les crédits, pour la, la redistribution de la terre, la propriété de la terre, etc., etc. Cinquième point, les victimes. On a fait explicite le besoin d'avoir une subcommission de genre qui travaille la violence sexuelle durant le conflit armé. Donc, bien. Deuxième point, démocratisation politique et culturelle. Là, ils n'ont rien dit du besoin de vraiment démocratiser la Colombie au sens d'avoir les femmes et leurs droits garantis et institués dans la vie quotidienne. Donc là, mais en général, on pouvait dire que c'est un bon, une bonne renégociation et les femmes ont bien fait leur travail. Ce qui a été très intéressant, c'est que les femmes qui étaient à La Habana ont écouté les femmes guerrilleras qui venaient de processus des années 80. C'est-à-dire qu'il y a eu des conversations intergénérationnelles et interguerrilleras, non, des femmes qui avaient passé par un processus de paix dans les années 80, qui avaient vu comment elles étaient des combattantes et des, même avec des postes assez hauts, et qui, à travers le processus de négociation, sont renvoyées à la maison. Hein, c'était passé comme ça. Donc ces femmes-là ont traduit leur expérience à La Habana avec les femmes des FARC. Mais les femmes des FARC n'ont pas demandé de quota. Je ne sais pas pourquoi. Là, moi, j'aurais demandé des quotas, mais en tout cas, elles n'ont pas demandé des quotas. Ça, c'est un point qui est resté un peu flou dans les stratosphères. Donc, nous avons eu réellement une représentation grâce à cette dynamique de communication entre femmes. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en Colombie, pendant qu'à La Habana, toutes ces négociations avaient cours, en Colombie, les personnes ne comprenaient pas ce qui s'était négocié à La Habana. Et ce breach, et sa brèche, ce décalage communicatif a laissé à la droite et l'extrême droite le camp libre pour dire toutes sortes d'interprétations bizarres sur l'accord de paix. La majorité des interprétations étaient sur le genre. Alors, par exemple, on ne touchait pas la famille. C'était pas dans les accords de toucher la famille. Mais la droite a dit que les accords allaient contre la famille. Et bon, la Colombie, c'est un pays très religieux, très traditionnel, et ça a mobilisé beaucoup de personnes. La droite aussi a dit les accords, c'est des accords de genre, qui ont une idéologie de genre. Tout le monde se demandait qu'est-ce que c'est une idéologie de genre ? N'importe, ça a mobilisé les gens contre l'accord. Alors, ce que moi je retiens de tout ce processus, c'est que non seulement il faut avoir une représentation et une masse critique de femmes capables de négocier les accords, mais il faut en même temps avoir une masse critique qui est capable de communiquer au pays entier et au secteur opposant ce qui est vraiment en train de se négocier en Colombie. Il faut toujours penser aux espaces communicatifs, non seulement à la table de négociation. Une négociation a besoin de légitimation vis-à-vis les secteurs sociaux. Et finalement, c'est ce qui, pour moi, explique pourquoi en Colombie, en septembre 2016, je pense, oui, le plébiscite, le non à l'accord a gagné au plébiscite. Voilà, c'est tout. Merci.
deux mots seulement pour remercier Mariama d'avoir mis ces questions sur la table avec force et de les avoir bien ciblées. Je pense que la Colombie est un pays qui se prête à ce genre de réflexion parce que les guerres y ont été multiples, longues, diverses, extrêmement complexes. Et que, par ailleurs, les processus de paix aussi, d'ailleurs, celui avec les FARC n'est que le dernier d'une longue série, c'est même pas le dernier, il y en a un autre qui est en cours. Donc, c'est toute une histoire, en particulier les 50 dernières années, comme tu l'as souligné. Mais les questions que tu poses se posent, je crois, dans tous les processus de paix. Ici, il y a des spécialistes des différentes régions du monde sur ces questions-là. On pourrait en discuter longuement. Mais dans mon domaine, qui est plus l'Amérique latine, je crois que le cas colombien est déjà également à la fois très significatif et très illustratif et à la fois très différent. Et beaucoup plus riche, d'une certaine façon, que d'autres cas, par exemple les cas centra-américains. Beaucoup plus riche dans la durée, dans la longueur, dans la, comment dirais-je, dans la sédimentation de tous ces processus. Il y a un film qui est extraordinaire, celui de comment s'appelle Natalia, qui a fait un film que nous avons présenté ici il y a un an maintenant exactement, sur le processus de paix, sur les négociations de paix à La Havane, qui est un film admirable. Ce que je veux dire aussi, c'est que voilà. Alors, comment ce que tu mets sur la table nous intéresse les autres personnes ici présentes, travaillant sur d'autres problématiques, sortir de simplement. Comment la Colombie peut nous servir à réfléchir sur ces questions-là, sur cette question-là en particulier. Mais le deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que ce qui est curieux dans le cas de la Colombie, que personnellement, ça fait exactement 50 ans que j'y ai mis les pieds. Là maintenant, et on a vécu quand même ici. Je vois des visages de Colombiens ou de gens qui connaissent bien la Colombie. On a vécu quand même tout un processus de, malgré tous ces conflits, malgré ce que tu dis sur le pays traditionnel, etc. C'est en même temps un pays extrêmement riche quant à la la complexité sociologique et sur ces questions. Et c'est un pays où les classes moyennes ont une plus grande importance que dans d'autres pays latino-américains. Je ne parle pas des pays du Sud, mais Amérique centrale, etc. Pérou, etc. Il y a eu une ascension des femmes dans ces classes moyennes. Ce qui me frappe, c'est que beaucoup des personnes qui travaillent, dont toi, sur ces questions-là, sont des femmes. Depuis assez longtemps, puisque Virginia Gutierrez, qui a fait le grand rapport sur la violencia avec Falsborda et d'autres, c'était une femme quand même qui dirigeait ces études-là. Et c'était sur la violencia, c'est-à-dire la violence précédente, celle des années 40, de 48 à 50, etc. C'est surtout, je dirais, moi, à partir des années 60, que les femmes ont occupé énormément de postes dans l'université, enfin les femmes ont monté quand même, dans les entreprises, etc., mais aussi dans la politique. Tu l'as étudié, tu pourrais en parler mieux que moi. Mais, comme tu l'as très bien dit, je crois, il y a un blocage quand on arrive aux décisions, au conflit armé, sur les choses de décision. C'est là que je rejoins le souci de Pierre ici, de parler des décisions. Et tu nous as assez bien montré ça dans le cas de l'accord de paix. C'est deux choses que je voulais souligner. Il y a pas d'autres choses que j'aimerais discuter avec toi. On aura d'autres occasions. Mes collègues peuvent...
On a certainement quelque chose à ajouter. On me met le micro dans la bouche, donc il faut... Je voudrais faire deux remarques qui sont des questions ou de la discussion. Première remarque, elle est à la fois théorique, méthodologique, et c'est une question concrète. C'est très intéressant ce que tu as dit à un moment sur Le fait que quand on interroge classiquement dans des commissions, dans des ateliers, des choses comme ça, on n'apprend rien du tout. Et que si on crée d'autres conditions, on apprend beaucoup de choses. Et donc ça, je trouve qu'il faut bien écouter ce genre de... Quelles sont les conditions qui permettent à l'enquête ou à la connaissance d'être produite? Et la question donc, qui prolonge cette remarque, c'est est-ce que tu pourras nous dire quelques mots de la situation, de ce qui a été l'originalité du centre de recherche sur la mémoire historique et sa situation présente qui est en train quand même de se transformer. Donc il faut toujours être très prudent quand on parle de sérité, mais c'est un centre très original. Donc je trouverais intéressant que tu nous dises ce qu'il a d'origine, ce qu'il a eu de différent d'un centre classique de recherche.
D'autant plus, et ça c'est un point d'information, qu'elle peut en parler d'autant plus librement qu'elle vient d'en démissionner.
Alors on va savoir pourquoi elle a démissionné. Et j'ai une deuxième remarque à faire qui est planétaire, si j'ose dire, ou globale. D'un côté, dans le monde entier, on a le sentiment qu'on est rentré vraiment dans une période où la parole des femmes s'entend, où la sous-commission ici, par exemple, c'est un exemple, mais on pourrait prendre beaucoup d'autres exemples, où vraiment, vraiment, il y a un énorme progrès sur ces registres-là, d'un côté. Et puis d'un autre côté, on nous parle de Trump. On nous parle du Brésil, où un candidat d'extrême droite va peut-être être élu avec des votes de femmes, alors qu'il tient des propos terrifiants. Et on pourrait, dans le monde entier, trouver plein d'autres exemples de ce type. Et donc, j'aimerais avoir ton sentiment, à vraiment une échelle vraiment planétaire. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce double mouvement? Parce qu'on aurait pu penser que on aurait pu rêver ou penser de manière un peu naïve d'un progrès continu. Et on observe autre chose qui s'observe peut-être déjà au niveau plus limité de ce que tu as observé. Mais je crois que c'est un problème très, très général. Je n'ai pas de réponse du tout, mais j'aimerais avoir juste ton sentiment sur le fait qu'il n'y a pas du tout une évolution vers de moins en moins de violence, etc. Hein, il y a une évolution totalement ambivalente, voilà, en ce moment. Et je trouve que ça m'intéresserait voilà. Donc ça, c'est donc une question plutôt... de recherche, disons, et d'institutions de recherche, et une question sur cette ambivalence.
Moi, je vais faire une remarque assez pessimiste sur des crises qui m'ont plus mobilisé, c'est-à-dire, par exemple, la crise afghane ou la crise syrienne. Là, les femmes n'existent pas. Et non seulement elles n'existent pas, mais en plus, il s'agit non seulement de leur laisser la place, mais l'instrumentalisation par les Occidentaux, qu'ils soient soviétiques ou qu'ils soient américains, de la cause de la femme, a été une erreur stratégique majeure. Quand vous pensez que l'intervention en 2002 se fait en particulier en expliquant qu'on va libérer la femme afghane, c'est l'exemple même de la problématique politique transposée. C'est des gens qui n'avaient jamais mis les pieds en Afghanistan qui ont décidé ça. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que finalement, la période post-soviétique, c'est-à-dire le moment où les Soviétiques se retirent et laissent Najibullah. Najibullah reste 2 ans, plus longtemps que Karzai au pouvoir. Hein. C'est-à-dire le système soviétique va durer plus longtemps que le système post-américain. Et à l'époque, la modernité, c'était la libération de la femme. C'est-à-dire que quand les talibans reviennent, les femmes payent encore plus cher, si vous voulez, cette problématique. Je ne vais pas être pessimiste, mais enfin, ça veut dire qu'il faut faire très attention, nous, occidentaux, quand on fait une intervention, qu'on va légitimer par des raisons de droits de l'homme. Les droits de l'homme et les droits de la femme, il y a certains pays où ce n'est pas la même chose. Et c'est même souvent desservir la cause de la femme que de la mettre en avant dans certaines interventions. Ça, c'est une remarque d'ordre général. La deuxième remarque, je pensais à une étude qui a été faite sur le Pays Basque, où on se demandait pourquoi la mobilisation se pérennisait, si vous voulez, même sous la démocratie, etc. Et on s'est aperçu que le discours de la violence et le discours du souvenir de la violence étaient portés par les maires. C'est-à-dire que les maires étaient aussi des agents de la violence. Bon. Donc c'est pour ça que je ne voulais pas être pessimiste. La dernière chose qui me rend un peu optimiste, et malheureusement, il faut le dire, c'est que pour la première fois, c'est la Yougoslavie qui a fait du viol un objet de cour pénale internationale. C'est-à-dire qu'il a fallu attendre les années 90, et vous remarquerez qu'en Syrie, on n'est pas encore à ce point-là, puisque les femmes n'existent pas en Syrie.
Alors, Yvon a fait des commentaires, mais tu n'as pas posé de questions aussi, non?
Non, tu as déjà répondu partiellement.
Mais Michel demandait quelle est l'originalité du centre de mémoire historique. Et pour moi, la réponse est à différentes dimensions. Il y a une dimension qui a à voir avec un moment très particulier de la Colombie, où nous avons eu un processus de paix en cours, un président qui reconnaissait qu'il y avait un conflit armé en même temps, et la possibilité d'avoir une espérance. Ces trois choses se sont réunies à un moment donné, et il y a eu un centre dans l'État, qui a généralement été vu comme un État excluant, un État répressif. Nous avons eu la possibilité d'avoir dans cet État un groupe de chercheurs qui venaient des universités, qui ne venaient pas de la fonction publique, qui n'avaient aucune idée de la fonction publique. Une amie me disait « Vous êtes des hippies dans la fonction publique hein. ». On n'avait pas les indicateurs, on n'avait pas... On venait d'un autre monde. Et on a atterri là. À un moment, il y avait une petite espérance. Et ça a été magnifique. Moi, je dois dire que ça a été magnifique. Alors, le centre fait partie de la loi de victimes et restitution des terres, la loi 1448. Il fait partie des institutions créées par l'État colombien pour la réparation des victimes. Et le Centre national doit réparer symboliquement les victimes, ce qui veut dire que l'État reconnaît que la guerre non seulement laisse des blessures matérielles, objectives, mais aussi symboliques, qu'il y a un langage de la guerre qu'il faut traiter pour le surmonter, et que les victimes non seulement ont souffert parce qu'elles ont perdu la terre ou parce qu'elles ont perdu leur enfant ou parce qu'elles ont souffert elles-mêmes un viol, mais aussi parce qu'elles ont été humiliées, stigmatisées par les acteurs armés. Il y a des souvenirs non seulement de la violence physique, mais aussi de la violence symbolique qu'il faut réparer. Alors, le centre était créé à un moment extraordinaire pour moi, où, après beaucoup d'années où il y avait peu d'espérance pour le pays, on a eu un sentiment que quelque chose de nouveau pouvait se produire, dans l'État même. Et moi, je dois dire que ce n'était pas que le Centre national de mémoire historique où il y a eu des collègues d'universités publiques et privées qui se sont réunis. Il y a eu une amalgame d'institutions où j'ai vu les jeunes, j'étais prof à ce moment, alors les jeunes qui transitaient de l'université et venaient faire partie de l'État colombien pour vraiment avoir une attitude différente vis-à-vis les victimes et vis-à-vis le processus de paix. Donc, je finis avec cette idée. L'originalité était qu'on était des universitaires et puis tout à coup, on était des fonctionnaires publics, un peu comme vous l'avez dit au début... Mais les produits que nous devions produire, c'était des produits, alors là aussi un peu sui generis pour l'État colombien, c'était des livres, c'était des produits académiques. Donc c'était quand même pas quelque chose de tout à fait différent à ce qu'on venait faire. Mais c'était aussi des produits artistiques. Et là aussi, je me sens vraiment reconnaissante d'avoir pu faire partie d'un centre qui a combiné les arts, les expressions esthétiques, la pensée scientifique des sciences sociales, tout ça combiné ensemble pour faire une liaison entre la société civile des victimes et l'État colombien. De construire un pont de solidarité entre un État qui avait été vu un peu comme faisant partie du problème et ayant la possibilité de faire partie de la solution. Alors, pour moi, ça a été fantastique. Hein. Alors, bon...
Pourquoi tu as démissionné ? Tu n'y échapperas
pas. Non, parce que... Ah, j'étais acteur, je prenais des décisions, mais j'avais un cadre social, un cadre politique qui me laissait avoir une espérance et avoir des dreams,
des rêves
et voir comment on les réalisait vis-à-vis ce qu'on avait comme recours institutionnel. Mais le cadre a changé. Non, le cadre politique, le cadre a changé et donc ben, voilà. Je veux pas en dire plus parce que.
Juste un mot, c'est une parenthèse. Un assez grand nombre des ouvrages publiés par le centre est à la bibliothèque de la Fondation. Il y a vraiment des documents, des livres exceptionnels. C'est très très riche et donc je voulais le signaler. C'est accessible.
Une quarantaine de livres ont été publiés par le centre, documentant les massacres, des contextes divers et variés du conflit armé dans presque toutes les régions du pays. Un travail immense qui a été fait.
Et hier, on a reçu, parce que ça me rend quand même très orgueilleuse, 3 premios. Les prix par... il y a des prix pour les sciences sociales en Colombie, Ángeles Escobar, et 3 de mes collègues, d'équipes de collègues, ont reçu des reconnaissances. Alors, vraiment, ça fait plaisir. C'est des jeunes, à nouveau, c'est des jeunes. Le centre avait... des conversations intergénérationnelles. C'était pas simplement les grands chercheurs. Non, c'était les jeunes qui arrivaient dans l'État et qui voulaient faire de la recherche et l'ont très bien fait. Alors, ça me fait plaisir qu'ils ont reçu ces... Alors, le backlash, les femmes et les ambivalences dont parlait Michel. Moi, ce que je sens, c'est que l'histoire, c'est jamais... une autoroute, je ne sais pas comment le dire en français, c'est jamais une autoroute, c'est jamais comme je suis ici, je vais là-bas. Hein. On avance de pas, on recule de pas. Même les avances, c'est dialectique, c'est vraiment dialectique. Moi, je pense que ce qui est arrivé au plébiscite en Colombie, avec le non, c'était un backlash des avances des femmes dans la société colombienne. Qui, comme le dit Yvon, ont fait des énormes progrès. Je suis un peu en désaccord avec le progrès ne se reflète pas dans les partis politiques et dans le Congrès. On a eu maintenant une loi de quotas qui a amélioré un peu la situation, mais même dans les universités, on n'a pas de doyenne, non, comment c'est, rectoras ? On n'a pas de femmes recteurs. Pour la première fois, la Universidad Nacional a une femme comme doyenne. Première fois. Après, je ne sais pas combien de centaines d'années. Les femmes se sont professionnalisées, mais il y a quand même des ceilings et des exclusions. Et il y a... Oui, tout à fait. Oui, mais... Enfin. Donc, je pense que c'est. Il y a des backlash. Trump aussi, c'est un backlash.
Il y en a beaucoup quand même.
Ouais, en ce moment, oui. Et sur la dernière question que vous avez amenée sur l'argument, je suis tout à fait d'accord avec vous. Les interventions en utilisant les femmes et les transformer en emblème de la modernité pour intervenir dans un pays, c'est la catastrophe. Mais en Colombie, je dois dire, ce n'était pas l'intervention des Nations Unies qui a amené les femmes à la négociation. Si c'est le message qui est resté un peu... Non, ce n'est pas ça. Parce que depuis les années 80 et 90, nous avons 2 grands réseaux de femmes en Colombie. La Ruta Pacifica, qui est partout dans la Colombie et qui est très fort, et la Iniciativa de Mujeres por la Paz. Donc les femmes, c'est le paradoxe de la guerre en Colombie. Elles ont été visées par les acteurs armés, mais elles sont, comment se dit, empoderadas. Elles se sont... Elles ont pris du pouvoir et elles sont devenues très actives et très publiques. Les femmes sont très publiques en ce moment. Par exemple, dans les réseaux de mémoire et de victimes, les femmes sont tout à fait premier front, etc. Voilà.
Dans le cas de la Syrie, c'est très intéressant parce qu'en fait, la cause des femmes est plutôt du côté de Assad. Mais ce que je veux dire, c'est quand même lui qui porte le discours de la modernité, ou alors du côté des Kurdes, parce que pour les islamistes, être tué par une femme combattante, c'est la pire des choses. Donc on est dans un genre très compliqué.
Je vais peut-être commencer par un parallèle, ce n'est pas une question. J'allais penser des choses différemment, mais étant donné qu'Yvon a parlé des parallèles, la question des femmes et la question des violations, des abus sexuels, etc., n'est pas simple non plus pour l'Argentine. Et on a vu les procès militaires qui ont été simples, ont été les années 85. Et pourtant, à l'intérieur de ces procès-là, la question des femmes ne se touchait pas. On a commencé à parler des violations et abus en l'année 2010-2013 avec la méga causa ESMA. Et vraiment, ça a été très complexe parce qu'on associait plutôt à la complicité des femmes. On a eu, par exemple, des abus des militaires dans les cas... on amenait les femmes dans un bar, par exemple, pour faire en sorte de faire nombre pour pouvoir capturer quelqu'un. Bon, là, c'était vu comme une collaboration parfois. Donc, ça a été très difficile. C'est que dans les années, je dis, 2010-2013, qu'on a commencé à parler de ça concrètement, des abus concrets aux femmes. Et on a maintenant des procès qui intègrent ces questions-là. Mais ça, c'est encore quelque chose dur à porter pour les femmes. À l'Uruguay, c'est pareil. À l'Uruguay, il y a 2-3 années, c'est ouvert un procès de 12 femmes qui accusent les militaires pour des abus et violations. Et en Guatemala, le mois de mai, c'est le premier cas. Voilà. Donc, je pense que c'est une question globale, la question de mettre sur l'arène publique la question des abus qui sont nettement différents. Les abus des hommes et des femmes. Mais c'est aussi un problème parler des violations des hommes, parce qu'on ne parle pas. Et c'est un autre sujet qui est bien présent dans les cas de torture à l'intérieur des camps de concentration. Et après, c'est une vraie question méthodologique. Moi, ça m'intéressait de savoir comment vous avez fait pour faire les entretiens avec les gens, dans quelles conditions. Ils ont commencé à parler parce que bon, je considère effectivement que la condition ouvre ou pas la parole, tout dépend. Et qu'est-ce que vous avez fait avec cet entretien-là? S'il y a un archive oral, qui garde cet archive, qui peut le consulter, qui le garde, hein, qui a le droit d'ouvrir ou pas ces archives. Et l'autre chose, c'est vous avez parlé del registre unique des victimes. Oui. C'est quelque chose qui est particulier plutôt à la Colombie. On ne l'a pas partout, et donc j'aimerais savoir comment elle est composée, si ce sont des victimes mortes, si ce sont des victimes qui ont survécu aussi, voilà.
Sylvain, peut-être on prend une autre question, deux ou trois, oui, trois si tu veux, oui. Ça dépend de tes capacités de mémoire pas historique.
J'ai juste envie de dire en remarque concernant les femmes, la situation des femmes en Syrie. Alors, la force de Daesh et la montée de pouvoir... Non, c'était juste, il y avait juste une remarque, rapidement. La force de Daesh a été de donner le pouvoir aux femmes, de changer la notion du djihad, d'un djihad qui était réservé qu'aux hommes, d'un djihad qui aussi, que les femmes peuvent le faire. Alors, ça aussi, parmi les quelques entretiens que j'ai pu faire dans un travail l'année dernière... Les femmes aussi étaient actrices de leurs actions. Et la visibilité des femmes dans ce cas-là, elles étaient visibles autant que les femmes kurdes et que les femmes qui combattaient pour Bachar al-Assad, mais ce n'était pas la même visibilité. Mais elles étaient visibles et elles étaient là.
Merci. Une troisième, une troisième intervention, question. Présentez-vous, parce que on connaît certaines personnes, mais d'autres non.
Oui, je suis Jorge Guerra, je participe au GRECOL, le groupe de réflexion sur la Colombie. Jorge Guerra, oui. Sociologue, je participe au groupe de réflexion sur la Colombie avec Angélica et Nelson Vallejo. J'ai une question. Vous savez parler des trois acteurs, ce qui me plaît, parce qu'à un moment donné, surtout l'armée, l'État colombien parlait de deux acteurs, les paramilitaires et les guérillas. Pour l'État colombien, les forces armées n'étaient pas des acteurs. Là, je vous parlais des trois acteurs, mais vous parlez des violations, surtout dans le cas des paramilitaires, qui ont commis sur les femmes plus de ces actions que peut-être la guérilla, et moins les forces armées. Ce qui m'intéresse, c'est faire ce lien entre paramilitaires et militaires, parce que les paramilitaires ont commis des actions, quelquefois sur l'ordre des militaires. Donc, c'est ces questions poreuses que peut-être il faudra aborder un peu plus. Et l'autre question, c'est plutôt une remarque ou une impression. Vous avez fait un saut entre les années 80 où l'université a été victime et après les sauts à l'ère Uribe où l'université commence à faire plus de recherches sur la violence. Je crois que de toute façon, à partir des années, on pourrait dire 95 et jusqu'au 2000, ce travail qui ne fait pas l'université de manière officielle, les remplissent les ONG. Les ONG font beaucoup de travail sur la violence et on oublie quelquefois que dans les ONG, il y avait aussi des sociologues, des anthropologues, des psychologues. Donc, ce travail, peut-être, il faudra leur donner les mérites. Et même à l'intérieur de l'université, on voit précisément que la Ruta Pacifica de las Mujeres et la Réinitiative pour la Paz, il y avait la participation, par exemple, du Centre de Gendre de l'Université d'Antioquia et aussi des groupes de femmes de l'Université nationale. Donc là, il y a aussi un travail qu'il faut peut-être reconnaître. Merci. Oui,
très bien. Bon, je crois
une dernière
Vous voulez intervenir sur le même thème ou bien,
oui, c'est juste... non, c'est plutôt une question qui est plutôt une remarque, mais qui prend la forme d'une question. Angélica Montes de Grécol ALC, associée à la FMSH. Vous avez dit que vous êtes étonnée car les femmes de FARC n'avaient pas demandé des quotas. Est-ce qu'on ne peut pas répondre à ces questions en se situant sur la logique même de l'organisation de la conception de la gauche en Amérique latine et un peu ailleurs? La gauche ne connaît pas des diversités spécifiques, ne connaît pas que des camarades. Donc, à l'intérieur d'une gauche, on ne peut pas avoir une militance FARC noire de Choco, femme militante de la Caraïbe colombienne. Est-ce qu'on ne peut pas répondre ça du point de vue de cette construction idéologique de la gauche?
Bien. Ben, cette fois-ci, la parole est à Maria Emma. On fera un autre tour de table. Maria Emma.
Non. Alors, Argentine. non, ce que je voulais faire, c'est différencier, parce que vous avez parlé de causas. J'imagine que c'est des processus judiciaires. Alors, voilà, je pense que peut-être je n'ai pas fait suffisamment de différence entre les processus judiciaires et la mémoire historique, parce qu'en Colombie, ce qu'on a essayé de faire, c'est de construire un champ où les juges n'étaient pas les seuls qui parlaient du passé et qui jugeaient. On peut aussi juger et trouver des responsabilités à travers le récit historique. Et donc, c'est pour ça que, même si, par exemple, en Colombie... il y a eu une justicia y paz, c'est avant la ley 1448, c'est avec les paramilitaires, la négociation avec les paramilitaires. Il y a eu un cas en particulier de el comandante Hernán Giraldo, Sierra Nevada de Santa Marta, où la procureure est arrivé à démontrer que cet homme qui disait qu'il avait des fiancés par-ci, par-là, en vérité avait imposé un système de...
droit de cuissage.
Et donc, il offrait une sécurité aux paysans de la région en contrepartie à l'accès violent des virgines, des vierges. Hein. Et la fiscale, je m'excuse, hein, vous comprenez, hein, la fiscale est arrivée à démontrer dans les estrades judiciales que cet homme avait commis des viols. Voilà. Alors, il est passé du discours de « c'était mes fiancés » à « oui, j'ai commis des viols » et c'était des filles en plus qui n'avaient pas 15 ans. Donc, c'était des mineurs. Bon. Mais dans le Centre national, il n'y a pas que des causes. On essaye de reconstruire les entramés historiques, les conditions de possibilité pour que certains répertoires soient systématiques. Et là, ce qu'on a trouvé, c'est que les organisations armées, et là, je peux enlacer avec les questions sur les paramilitaires et les militaires, ce qu'on a trouvé, c'est que ces violences systématiques contre les femmes ont besoin de conditions de possibilité. Et les conditions de possibilité viennent données par les organisations. Ce n'est pas la même chose d'être un homme paramilitaire que d'être un homme guerrillero ou même être un homme des forces armées de la Colombie. La doctrine, c'est la façon de modeler cet homme armé sont tout à fait différentes. Et on ne peut pas aplatir et dire que tout le monde commet les mêmes crimes. Ce n'est pas vrai. Il y a des différences qu'il faut comprendre, qu'il faut expliquer. Et voilà. Les ONG, oui, mais j'avais aussi Archivos. Ah, oui, alors, pour avoir un statut de victime, en Colombie, il faut s'inscrire dans le Registro Único de Victimas. On ne peut pas accéder à la réparation de l'État si on n'est pas inscrit. Alors, les victimes se sont inscrites et elles devaient raconter leur histoire. Oui. Alors, on a une archive gigantesque d'histoires mise en place par les propres victimes. Et ça, c'est le RUV. Oui. Et en plus, dans le Centre national, lorsqu'on faisait de la recherche dans les régions, on faisait des entrevues normales, mais on faisait aussi des ateliers. Et dans les ateliers, il y avait un langage différent parce qu'il n'y avait pas que le langage oral, il y a aussi des dessins de corps, on faisait des mapas del cuerpo, dessins de corps, qui racontaient une histoire aussi, On faisait des cartographies sociales avec les communautés. On faisait des parcours, parce que on fait un parcours, alors il y a une quantité d'informations qui sort. Ici est arrivé ceci, ici est arrivé cela. Alors, on a combiné des méthodes de l'anthropologie, des arts visuels et de la recherche traditionnelle des sciences sociales pour répondre aux questions que nous faisions. Voilà. Bueno. Entonces, oui, c'est vrai, les ONG ont continué à faire un travail très courageux. Sûrement, j'ai généralisé sur ma position. Ma position, ça a été que, en 88, j'ai pas raconté ça, j'ai oublié. J'ai fait partie du CINEP. Et le CINEP, c'est
une ONG parmi les plus importantes travaillant sur les droits de l'homme et voilà. Sur les violations des droits de l'homme en Colombie.
Alors, en 88, j'ai reçu des menaces dont j'ai jamais parlé. Et donc, à ce moment, je suis partie. Et dans ma vie professionnelle, j'ai fait un espèce de pause. Et j'ai eu une fille. Et ça m'a fait aussi mettre une distance avec le terrain, le travail de terrain. Parce que j'avais peur. J'avais très peur. J'avais eu très peur quand j'ai reçu les menaces. Et après, quand j'étais mère, j'avais encore peur. Enfin, ce n'était pas simplement la responsabilité vis-à-vis mon pays, mais aussi vis-à-vis ma fille. Alors j'ai décidé de pause, une longue pause jusqu'à 2008. Alors c'est vrai que les ONG ont continué, mais le pays était en miettes. Et je pense qu'on a eu une petite fenêtre d'opportunité d'avoir beaucoup de gens en faisant du travail de terrain, même jusqu'à ce moment. Même aujourd'hui, quand nous avons les assassinats de leaders sociaux et de défense des droits de l'homme, il y a une quantité de travail qui se fait de terrain encore. Et je sens qu'il y a un pays quand même différent. Différent aux années 90, début de 81. Et oui, les ONG avaient et produisent de la connaissance. Ce n'est pas que l'université, c'est vrai. Oui, tout à fait.
Les femmes ont quand même un rôle important dans les ONG aussi, non ? C'est un peu le sens de la question, non ?
Oui, mais il faudrait voir combien de ONG ont une femme dans leur direction. Hein ? Parce qu'à CINEP, on a essayé d'introduire plusieurs fois une politique de genre dans l'institution. C'est jésuite aussi, il fallait dire que c'était un peu dur. Mais
en tout cas pas en Colombie.
Oui. Ah, la gauche et la FARC. Et les femmes des FARC. J'ai été une fois à La Habana et j'ai eu l'occasion d'être à la sous-commission de género. Je ne faisais pas partie de la sous-commission, mais j'ai eu cette chance-là. Et à cette subcommission et à cette réunion, il y a eu, peut-être vous connaissez, et Maria Eugenia Vázquez qui venait des processus de paix à la fin des années 80. Elle faisait partie du M19, une autre guérilla. Et c'est une femme très politisée, très articulée. Et dans son discours, elle a dit... écoutez, moi, je suis une femme politique, j'ai la politique dans mon sang, et en tout cas, je reconnais que le M19 a commis une erreur quand on a fait la transition. Et cette erreur, c'est de penser que, comme nous étions des femmes, et des camarades, et tous, on s'aime tellement, on n'avait pas besoin de quotas et on n'avait pas besoin de nous faire sentir, parce que tout le monde allait respecter notre statut dans l'organisation. Mais ça ne s'est pas produit comme ça. La transition a été catastrophique pour les femmes. La plusieur part des femmes qui ont fait des militances électorales la première fois sont retournées vers la société civile et en ce moment sont des femmes dans la société civile, dans les ONG. Mais les partis politiques, si on voit les... Qui sont des femmes qui ont fait la transition à ce moment, qui sont restées dans les partis ? Aucune. Aucune.
Bonjour, je m'appelle Miguel. Je viens de Strasbourg, université. Je voudrais juste savoir une chose. On sait que maintenant, il y a des problèmes en Colombie parce que l'application des processus, ce n'est pas tellement bien. Je voudrais savoir si tu connais ce qui a sorti de cette commission-là de gendre, il commence à être appliqué en Colombie ou pas. Parce que c'est très important, parce que j'ai aussi lu des choses que écrit Maria Emma, qui a dit effectivement pour le M19, pour tous les guérillas qui sont démobilisés en 1990. Après, on n'a pas bien s'en sorti avec les processus de paix en tant que femme. Donc je veux savoir si tu connais déjà, s'il a l'application de cette commission.
Merci. Bonjour, René Zoberman, 16 DIP CNRS. C'est une question de méthodologie de sciences sociales que je voulais poser simplement. À propos de la différence de discours selon les deux circonstances, enfin les deux conditions dans lesquelles vous avez réussi à parler aux femmes. Qu'est-ce qui, d'après vous, qu'est-ce qui dans les conditions de discours explique cette différence entre la partie formelle où elles n'ont pas parlé de leur de la violence personnelle dont elles ont été victimes et les conditions dans lesquelles, à un moment, hors circonstances formelles, elles se sont mises à parler. Qu'est-ce qui est dans le formel et dans la différence entre le formel et l'informel qui explique qu'à un moment elles ont parlé à un autre nom?
Beaucoup de choses à dire, mais deux points. Le premier, c'est la question du viol comme arme de guerre qui a été initiée à propos de la Bosnie. Et bon, par la suite est reconnue de plus en plus internationalement, notamment le cas des Yézidis qui ont été transformés en esclaves sexuels et d'autres d'ailleurs. Est-ce que en Colombie, ça a été reconnu en tant qu'arme de guerre, notamment pour la destruction, l'humiliation, la destruction des communautés? Oui. La deuxième question, vous l'avez évoquée, c'est les mouvements de femmes pour la paix. Alors moi, c'est ce qui m'intéresse le plus, les femmes en tant qu'acteurs, actrices sociales. Alors, comment a émergé ce mouvement? Est-ce qu'il a émergé d'autres mouvements de femmes? Comment s'est-il mobilisé? Quelles actions a-t-il mené? Et comment se poursuit-il maintenant? Puisque la paix, un accord de paix, d'accord, la violence pour les femmes ne s'arrête pas de toute façon. Et en plus, l'accord de paix est bancal. Mais il y a un continuum ici, parce que sortie de la violence avec des négociations et un accord, mais la violence contre les femmes continue. Comment se mobilise-t-elle à l'heure actuelle? Un petit itinéraire de ce mouvement des femmes.
Alors, le formel, informel, je vais me... parce que je vous vois... Je pense que quand on travaille la violence de genre, il y a une difficulté et c'est que les propres victimes de cette violence ont un blocage pour parler de certaines circonstances. Et donc, par exemple, dans les ateliers mixtes avec hommes-femmes, on ne posait jamais la question de front, non ? Dites-moi ce qui est arrivé, etc. etc. Les cartographies de corps disaient beaucoup, et dans plusieurs des ateliers, les femmes ont voulu raconter leurs histoires, même s'il y avait des hommes, même si c'était mixte. Mais en général, elles ne racontaient pas ce qui se passait dans le quotidien. Elles racontaient ce que les acteurs armés, c'est-à-dire ceux qui sont de hors la communauté, avaient fait. Alors, pour parler de ce qui se passait dans la communauté, ce que j'ai vu, c'est que c'était dans les moments où il y avait une horizontalité. On était en train de déjeuner ou alors de prendre un break. Enfin, ce n'était pas formel du tout. Et là, on pouvait commencer à parler en tant que horizontalement et poser des questions peut-être qui ouvraient la porte. Ce n'était pas poser la question de « avez-vous été violée ?» ou « avez-vous reçu de la violence ?» C'était plutôt des questions sur le quotidien. Comment c'était d'être une femme ici ou une jeune fille? Comment avez-vous connu vos premiers, comment on dit ça, fiancés? Oui, fiancés. El novio aussi, voilà. Et là, alors, il commençait à se produire, à se déclencher des conversations qui étaient bien plus régulées par la propre communauté. Ce n'était pas l'histoire de la communauté qu'elle était en train de raconter, cette femme, c'était son histoire. Et donc, il y avait comme une distance pour pouvoir parler vraiment de ce qu'elle avait vécu, je pense. Je pense que c'est peut-être ça. Oui, oui, toujours, toujours. Pour les femmes et pour les chercheurs. Mais pour les chercheurs, je dois dire qu'on n'a pas fait un bon travail. Pour nous. parce que... Oui, un peu. Non, on n'a pas vraiment eu des... Pour nous-mêmes. Non. D'accord. Bon, alors, le mouvement des femmes en Colombie. Alors, le mouvement des femmes en Colombie, première chose à dire, c'est que ça a été toujours très... Non, attends. C'est décentralisé. Ce n'a pas commencé dans Bogota. Si on revient dans les années 60 et 70, et il faudrait que je retourne à Almapita. Ah, voilà. Voilà. On a eu un mouvement de femmes très décentralisé. Entonces, en Medellín, à Bogota, à Cartagena, à Montería, vous aviez des groupes de femmes, des petits groupes, qui ont commencé des réflexions féministes, etc., etc., 70. Dans les années 80, ces femmes faisaient partie aussi des réseaux de gauche en général et des réseaux de mouvements sociaux. Et c'est dans les années 90, non, plutôt vers la fin des années 80, que les femmes ont commencé à se réunir autour de la question de la paix. Si on me demande le premier mouvement social qui a dit « la paix est un droit » et nous avons droit, les Colombiens, à la paix, c'est les femmes vers la fin des années 80. Oui, mais décentralisée. Non. C'était... La gauche, quand même, a fait des ponts avec les communautés paysannes en Colombie. Ce n'était pas simplement des intellectuels urbains. Il y avait une gauche très enracinée dans les... Non, tu peux en parler ?
Enracinée ? Oui, non, je ne peux pas en parler. Ouais.
Mais en général, ouais, mais on a eu aussi un mouvement, par exemple, paysan très fort, la NUC, où il y avait des femmes, et il y avait des ponts avec les groupes de conscience féministes qu'il y avait aussi en ce moment-là. Si? Et tout ça a galvanisé, s'est articulé dans les années 90 autour de la paix. La paix est devenue un articulateur, un catalyseur de femmes de plusieurs groupes de gauche, paysannes, mais aussi intellectuelles, urbaines, professionnelles, etc. etc. C'est vraiment très pluraliste, peut-on dire, pluraliste. Et donc, ça a été très important. Et je pense que dans ces négociations de paix, on a vu la force des femmes. Aujourd'hui. Ben, je suis partie il y a un mois déjà. Non. Ah, le mouvement des femmes en général. Non, c'est un mouvement qui... c'est un mouvement... C'est un mouvement qui a eu beaucoup de force, je pense, dans les élections présidentielles. Mais la Colombie, en ce moment, je ne sais pas, il y a plusieurs c'est très divisé. Ce que j'allais dire, c'est que en ce moment, la Colombie est très divisée, et dans cette division, il y a beaucoup d'incertitudes.
Le mouvement des femmes n'est pas retombé, continue sur
quel... Non, ça continue, mais il y a une division, il y a une fracture énorme dans la société colombienne. Je ne sais pas si on peut dire que dans le mouvement des femmes, parce que le mouvement des femmes, je pense que c'est un mouvement plutôt articulé à la gauche et à une culture de gauche, je penserais, plutôt. Mais même si on voit le mouvement des femmes très fort et très articulé avec cette culture de gauche, je pense qu'il y a une incertitude parce qu'il y a un pays divisé. ce qui est paradoxal, c'est qu'on a fait la paix à La Habana, mais en Colombie, en ce moment, on est tout à fait dans une société divisée, entre ennemis, enfin, c'est dur.
Aux États-Unis, en fait, et ailleurs, en Brésil. Celle de Miguel.
Miguel.
Oui. Okay. Il demande quelles sont les suites
de l'accord de paix. Et pour je dois. Non, oui, pour les femmes. Te la deo. Non, il faut que je fasse un peu plus de recherche. Mais en général, les accords, comme vous le savez tous, n'ont pas été menés à bon port. On dit ça ?
Oui, c'est tout à fait.
Voilà.
Une question de méthodologie ici, qui est de madame est partie. Non,
elle est là.
Tu as répondu déjà ?
Oui, elle a
répondu.
Il y avait des psychologues.
Ah oui, c'était cette question. Pierre ne connaît pas la question.
Juste une toute petite question avant d'aller prendre un pot quand même. Ce qu'on a constaté chez les femmes yézidis qui avaient été l'objet de viols, c'est la difficulté de les réinsérer parce qu'elles étaient rejetées par leur propre communauté, en fait, au retour. Oui, non, je sais bien. Mais je veux savoir si, effectivement, comment avait été traité le problème en Colombie. C'était ça l'objet de mon...
En Colombie, oui, il y a eu aussi des femmes qui ont été vues et stigmatisées par leur propre communauté. Parce que, justement, l'interprétation, c'est « tu l'as voulu, c'est ta faute ». Non ? Et il y a une expulsion aussi des réseaux émotionnels et sentimentaux de ces femmes dans plusieurs régions de la Colombie. C'est terrible. Ouais.
Une dernière question.
C'était juste une question sur les femmes victimes de violences, les femmes combattantes ou les femmes militaires et policières, mais chacune à l'intérieur de leur propre groupe. Est-ce qu'elles ont parlé aussi de violences subies à l'intérieur de leur propre groupe professionnel, en tant que combattantes ?
Oui. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de recherches en ce moment par les jeunes étudiantes qui se font cette question. Et je pense que dans les FARC, il y a eu plus de femmes qui commencent à parler de la violence qu'elles ont souffert dans leur rang. Mais il y a bien plus de difficultés d'en parler dans les forces armées, par exemple. Dans les forces armées, il y a une énorme censure qui pèse sur les femmes qui font partie des rangs de la police et des forces militaires. En général, dans les forces armées et dans la police, il y a eu un usage, si je peux dire, du genre. Et ils ont produit deux livres qui s'appellent, pour la police, c'était avec des chroniques, des histoires de femmes qui ont été victimes de la guerre. Et c'est des chroniques plutôt mythiques. Où l'on raconte la douleur et le courage, mais l'on fait cas omis à ce qui arrive dans les rangs. Oui. Et dans les forces militaires aussi, il y a eu un livre qui s'appelle « Las mujeres del coraje », qui est aussi un peu héroïque. C'est plutôt la matrice culturelle de l'héroïsme qui est racontée à travers ces histoires. Je pense qu'il faut un temps pour commencer à en parler.